Hey, j'ai un plaisir pour moi d'être avec vous. On va lire versets 11 à 20, tout de suite en commençant. 1 Pierre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Beaucoup de versets, des beaux principes qu'on va voir. Comment se conduire en tant que croyant ici, en tant que voyageur sur la terre? Vous savez, quand Pierre, Jésus l'a appelé, il n'a pas hésité, hein? Il a tout laissé, puis il a suivi le Seigneur Jésus pour le suivre. Mais Pierre a eu un parcours chaotique. Il n'était pas toujours égal. Il y avait des bonnes victoires, mais aussi des grandes défaites. Il est victorieux, il a suivi le Seigneur. Il a même été sur la montagne lors de la transfiguration. Vous vous rappelez, hein, quand il a vu le Seigneur transfiguré. Donc, il était à son pic, hein, avec le Seigneur. Il voyait la gloire du Seigneur, mais quand on est haut, on tombe de plus haut. Puis quand il tombe, il est tombé, il a renié le Seigneur. On le sait qu'il est tombé bas. Il a même pleuré amèrement d'avoir renié Christ. Et ensuite, le Seigneur, il l'a vu ressusciter, puis ça lui a donné le gaz pour aller de l'avant puis prêcher l'Évangile jusqu'à mourir crucifié, la tête en envers, selon ce que la tradition dit, bien sûr. Alors, l'Évangile a complètement transformé sa vie. Complètement, complètement. Qui était prêt à mourir pour le Seigneur Jésus. Puis, sa vie a été tellement complètement transformé que Pierre, quand on lit son épître, on réalise qu'il ne se sent pas chez lui sur la terre. Deux versets qui me font penser à ça, au verset 17, « Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » On est ici pour un petit temps. Ensuite, il va dire, au chapitre 2, verset 11, Pierre, en fait, va appeler ceux à qui écrit « étrangers et voyageurs sur la terre ». Est-ce que vous vous sentez comme pas à votre place sur la terre? Est-ce que l'Évangile a transformé ma vie à ce point-là que je ne me sens pas chez nous, ici? J'avais enseigné à l'école Lové, dans une classe, puis je parlais des quatre terres, la bonne terre, puis il y a les trois mauvaises terres qui ne portent pas de fruits, puis la bonne terre porte beaucoup de fruits. Puis il y a une des jeunes filles de la classe à la fin qui lève la main et qui me demande, elle dit, comment faire pour savoir laquelle des quatre terres je suis? Une jeune fille de famille chrétienne, elle va à l'église, elle a probablement professé d'être la foi, peut-être 15 fois, comme plusieurs enfants de famille chrétienne ont fait. Et là, elle est un petit peu mélangée. Elle dit, comment je fais pour savoir si je suis vraiment sauvé, de quelle terre je suis? Et j'ai simplement répondu, j'ai dit, ben, comment tu te sens dans le monde? Comment tu te sens avec tes amis non chrétiens? Est-ce que tu te plais avec, mettons que tu vas dans un party, puis les gens, ils font toutes sortes d'affaires qu'on ne ferait pas dans l'église, qu'on ne voudrait pas faire devant le Seigneur? Comment est-ce que tu te sens dans cet environnement-là quand ce n'est pas des choses qui glorifient Dieu? Je dis, la réponse à cette question-là va donner un bon indice de quelle terre tu fais partie. Et finalement, j'ai su par après que c'était une jeune fille qui aimait aller dans les parties puis qu'elle se sentait bien avec les gens du monde. Fait que j'imagine que ça l'a répondu à la question quand je lui ai dit ça. Comment est-ce que je me sens sur cette terre avec les gens qui ne sont pas les enfants de Dieu? Je me souviens quand j'allais dans les 5 à 7 au bureau et que je ne me sentais donc pas à ma place. À un moment donné, je rencontre un gars que je connaissais, puis je venais d'apprendre qu'il était chrétien, je m'en vais le voir, je dis, comment tu te sens, toi? Je dis, moi, il dit, on n'est pas à notre place, mais tu sais, on faisait juste ça pour les contacts, pour les affaires, puis c'est, les gens sont là, il n'y a rien de mal, mais on ne se sentait pas en tout à notre place, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que voyageur sur cette terre-là. Et dans ce qu'on a vu, la parole nous dit comment est-ce qu'on devrait se conduire dans le temps de notre pèlerinage. Il y a 4 choses qu'on va voir. On doit avoir une bonne conduite devant les païens. C'est évident, mais on va voir c'est quoi ça veut dire exactement. On doit se soumettre aux autorités. Ça aussi, c'est évident, mais on va voir un petit peu à quel point on doit se soumettre. On doit aimer nos frères et sœurs. Encore là, c'est évident. On va aller un petit peu en profondeur. Puis nous devons craindre Dieu. Donc, je ne vous apprends rien ce matin, mais on va essayer de creuser un peu dans ces principes-là. Avoir une bonne conduite au milieu des païens, se soumettre aux autorités, aimer nos frères et sœurs et craindre Dieu. Premièrement, avoir une bonne conduite devant les païens. Vous savez, il y a un paradoxe. Moi, je trouve, je le dis souvent, il y a un paradoxe quand on présente l'Évangile. C'est un paradoxe qui est frappant parce que d'un côté, on dit que c'est un don gratuit. Puis c'est ça qu'on dit aux gens. L'Évangile est gratuit. Christ a tout accompli. C'est gratuit. Alors, c'est pas faux de dire ça. J'ai rien à faire. J'ai juste à accepter le cadeau de la grâce. Mais d'un autre côté, il n'y a rien au monde qui ne coûte plus cher que l'Évangile, qu'à d'accepter l'Évangile, parce qu'il faut être prêt à renoncer à tout pour suivre Christ. Est-ce-tu gratuit, l'Évangile? Ben oui, mais ça coûte cher, suivre Christ. Parce que Dieu nous demande d'être prêt à renoncer à tout pour le suivre. Ça coûte cher. On n'est peut-être pas toujours prêt à payer le prix pour suivre vraiment Jésus. C'est pour ça qu'il y en a des gens qui suivent Jésus, qui veulent suivre Jésus, puis que finalement, un jour, ils abandonnent. Pourquoi? Ben parce qu'ils n'étaient pas vraiment prêts à tout abandonner. Puis à un moment donné, le prix, quand ils ont vu, c'était quoi exactement? Qu'il fallait qu'ils abandonnent telle chose, qu'ils arrêtent telle chose ou qu'ils renoncent à telle chose. Ils ont dit là, non, c'est assez. Je disais oui, mais là, je n'ai pas signé pour ça, je m'en vais. Donc, des gens abandonnent parce qu'ils ne sont pas prêts à payer le prix. C'est-tu gratuit, l'Évangile? Oui, il y a un prix à payer. Donc, il y a un paradoxe quand on présente l'Évangile. Et les premiers chrétiens, ils ont rapidement fait face à ce prix à payer pour suivre Christ. Parce qu'ils se faisaient calomnier. Aussitôt qu'ils ont voulu suivre Jésus, il faut comprendre qu'il y a un gros changement dans l'histoire là, juive de l'époque. C'est un gros shift d'être des judaïsants, d'être des juifs, puis de maintenant suivre Christ dans une société gréco-romaine, c'est pas rien. Alors, il se faisait critiquer. En fait, la calomnie, c'est une critique mensongère. C'est des mensonges qu'on dit à propos d'une personne. Et on faisait ça envers les chrétiens. On mentait, on disait qu'ils pratiquaient l'inceste. Je sais que je vous en ai déjà parlé dans d'autres messages. Ils pratiquaient l'inceste. Hein? On ne pratique pas l'inceste. Ils disent, ben oui, parce qu'ils se donnent un saint baiser, puis ils s'appellent frères et sœurs, puis ils s'aiment entre frères et sœurs. Donc, voyez-vous d'où ça vient, cette idée? Hein? Ensuite, on est des meurtriers, des cannibales, parce qu'on mange le corps de Christ. Gang de cannibales, là, il ne va pas dans cette secte-là. C'est des cannibales. On n'est pas des cannibales. Ensuite, on disait qu'ils étaient des athées. C'est quand même spécial, hein? Athées. Hein? Ils croyaient en Dieu. Ben oui, ils sont athées parce que dans le monde romain, il n'y a pas juste un Dieu, il y en a toutes sortes de dieux. Puis, qu'est-ce que les chrétiens y font? Ils rejettent tous ces dieux-là pour suivre le seul Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'eux? Ben, ce sont des athées, ils rejettent les dieux. Et aujourd'hui, on se fait encore calomnier, on se fait encore dire des choses qui sont des mensonges à propos de nous. On dit qu'on est homophobe parce qu'on croit que l'homosexualité est un péché. Donc, on les haït toutes, on veut toutes les envoyer, je ne sais pas où, puis on n'est pas gentil, mais ce n'est pas la question, pas parce qu'on ne les aime pas. On aime les personnes. On fait juste reconnaître les péchés que la parole nous reconnaît. Comme un couple qui cohabite ensemble, qui n'est pas marié, ben on les aime, mais il faut reconnaître que ce n'est pas le plan de Dieu. Puis on pourrait nommer toutes sortes d'autres péchés, mais on se fait traiter d'homophobe, on se fait traiter de sectaire, parce qu'on dit que c'est la Bible qui est la parole de Dieu. On se fait traiter de toutes sortes d'affaires. Puis hier, j'ai lu sur Facebook de HBN, parce que là, la bonne nouvelle, on présente l'Évangile. Et je vous lis ce que j'ai lu hier. C'est un méchant, là, mais un monsieur, ben, pas un méchant, quelqu'un qui est contre l'Évangile. Il dit « La parole de Dieu... Le mensonge le plus répandu et le moins subtil de l'univers pour asservir des épais. » Ça, c'est moi. Parce que c'est moi qui présente l'Évangile. Donc, je suis un épais. Ben, vous êtes tous des épais aussi, selon lui. Puis, plus le livre de calomnie divine est épais, plus tu pognes d'épais. Un gros merci à mes parents de nous avoir protégés de l'épidémie d'infestation. En tout cas, je ne sais pas trop. Religieuse de tarés qui calomnie sans vergogne. Spécial, hein? Comment on se fait traiter? Et puis ça, c'en est un parmi tant d'autres. Donc, on se fait calomnier, puis on se fait même traiter de calomniateur. Alors, il y a un prix à suivre le Seigneur Jésus si on se tient debout pour la vérité. Et je ne pense pas qu'on paye cher présentement versus les chrétiens du premier siècle, puis même des chrétiens d'aujourd'hui dans d'autres pays. Mais il y a un prix à payer pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Mais Pierre leur dit, ayez une bonne conduite quand même. Tu sais, quand tu lis ça sur Facebook, là, le gars qui traite d'épais, ça se peut-tu que tu aies le goût d'y dire ces deux, trois vérités en pleine face et que ça nous tente de riposter à ça? Ayez une bonne conduite quand même. Pourquoi? Ben, il dit « afin qu'il remarque vos bonnes œuvres ». Et là, on peut se poser la question, comment est-ce qu'un non-croyant peut remarquer mes bonnes œuvres à moi? Parce que, je veux dire, plein de monde font des bonnes œuvres. Alors, comment est-ce que les non-croyants vont remarquer les miennes plus que celles de mon voisin qui fait du bien, qui donne, qui va aider? Puis je le vois souvent, mon voisin, il va aider le voisin d'en face parce qu'il est plus âgé, il fait des bonnes œuvres, puis il travaille fort. Comment est-ce que les gens vont reconnaître mes œuvres à moi plus que les siennes? Comment est-ce que je vais me démarquer? Comment est-ce que ma conduite peut être si différente pour que les autres n'en reviennent pas? Je vous l'ai déjà raconté ici, je vous le raconte parce que la mémoire, on l'oublie, mais Charles Aznavour sur les plaines, puis il y avait deux personnes debout. C'était un spectacle, peu importe, tout le monde était assis. Puis il y en avait deux, trois qui avaient décidé de rester debout. Puis tout le monde en arrière ne voyait pas. Puis à un moment donné, ça commençait à se fâcher en arrière, puis à les traiter. Puis même moi, là, j'étais comme... J'ai embarqué. J'ai pas commencé à traiter de nom. Mais j'étais fâché. Je dis, gang de clowns, asseyez-vous donc. Vous voyez bien que tout le monde est assis sauf vous trois. C'est quoi votre problème? Puis j'étais frustré. Puis à un moment donné, il y a une madame. Je suis sûr que tu es chrétienne. Ça serait bon pour mon histoire, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle était chrétienne, mais il y a une madame qui se lève, elle va les voir, puis elle leur offre sa couverte. Elle dit, « Tenez, je vais vous offrir ma couverte, vous allez pouvoir vous asseoir. » Eux autres, ça les a sciés, hein, tu sais, puis ils se sont assis avec la couverte. Mais ils disaient non, ils ne voulaient rien savoir. Donc, voyez-vous, cette œuvre-là, de cette personne-là, elle a été remarquée parce qu'elle est allée au-delà de comment on aurait dû réagir avec ces trois clowns-là qui écœuraient tout le monde. Elle réagit avec amour. C'est ce que le Seigneur nous enseigne. Je pense que là où on peut vraiment faire une différence, ce n'est pas dans nos actions. Oui, ça ne veut pas dire de ne pas faire de bonnes actions, mais ce n'est pas là. C'est dans nos réactions. Dans nos réactions, comme cette jeune femme, tout le monde a réagi autour, fâché, à presque blasphémé, en les traitant toutes sortes de noms. Puis il y en a même un qui commençait à y lancer de l'eau, mais elle a une réaction qui honore Christ, elle a une réaction d'amour. Elle dit, gars, je vais être gentil avec eux. On est peut-être bon dans nos actions. Moi, je ne fume pas, je ne prends pas un coup, je ne flirte pas avec les autres femmes, je ne vole pas, je vais à l'église, je lis ma Bible, je prie Dieu. Mais ça, même les gens religieux sont capables de le faire. Ils sont même capables de mieux le faire que des chrétiens. Tristement dit. Là où on peut être différent puis se faire remarquer dans nos bonnes actions, réactions principalement, c'est justement dans les réactions. Comment est-ce que je réagis avec les gens qui ne sont pas courtois en voiture? Et moi, je ne suis pas bon là-dedans. Là. Comment je réagis devant le monde en voiture qui me coupe? Comment je réagis quand je n'ai pas un bon service à la clientèle au magasin? Ou quand c'est long au magasin et la file n'avance pas parce que la petite fille a l'air à commencer et elle ne sait pas ce qu'elle fait et tu es impatient. Comment est-ce que je réagis avec ceux qui sont pour l'avortement dans une soirée puis là, ça n'a même pas d'allure puis là, tu as le goût d'y dire ta façon de penser ou devant un athée ou comment je réagis face à la maladie ou l'épreuve? Comment on réagit dans la vie de tous les jours, dans les endroits ou dans les situations où on, normalement, on devrait réagir mal? Je suis un enfant de Dieu, j'ai l'Esprit de Dieu qui m'habite. C'est là que les gens devraient voir une différence parce que je ne réagis pas comme la majorité du monde normalement réagissent. Et ça, c'est là qu'on peut se démarquer, frères et sœurs. Comment on réagit dans notre vie suite à tout ce qui se passe autour de nous? Nos réactions vont parler plus fort que nos actions. Ensuite, il glorifie Dieu au jour où il les visitera. Donc, afin qu'il remarque vos bonnes œuvres et qu'il glorifie Dieu au jour où il les visitera. Un jour, Dieu va visiter certaines de ces personnes-là envers qui j'ai eu un bon témoignage. Et ils vont se souvenir de notre bonne conduite et glorifier Dieu. Ici, je pense que Pierre parle du jour où certaines de ces personnes vont se convertir au Christ, où Dieu va aller les chercher et ces personnes, en étant en contact avec l'Évangile, vont se rappeler, « Ah, je me rappelle de telle personne, puis je me rappelle, puis ils vont se rappeler de ça. » Ça va être un élément que Dieu va se servir pour attirer les gens à lui et qu'ils se convertissent à Christ. Et j'ai une histoire que j'ai trouvé intéressante en lien avec ça, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un camp, en fait, c'est des prisonniers aux Philippines. Puis il y avait des missionnaires américains avec, c'était Madame Ruth et un monsieur Herb. Et il y avait deux jeunes enfants, ils étaient prisonniers. Les Japonais, ils avaient fait prisonniers là-bas pendant 3 ans. Puis le chef, le commandant, en fait, il s'appelait Konishi. C'était un homme dur. Puis il raconte dans son journal intime comment il torturait, comment il massacrait, comment il affamait les captifs. Ce qu'il faisait, là, c'est qu'il augmentait les rations. C'était du palais. C'est un riz qui n'est pas décortiqué. Donc, c'est un riz qui est dans une enveloppe externe. Fait qu'il leur donnait plus de rations, mais pas décortiqué. Alors, quand on mangeait ça pas décortiqué, ce que ça faisait, c'est que ça causait des hémorragies intestinales. Puis en quelques heures, on mourait de ça. Alors, pour ne pas mourir, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on prenait un genre de morceau de bois, puis on frappait le riz pour le décortiquer. Sauf que l'énergie qu'on utilisait, les calories qu'on brûlait à décortiquer le riz étaient beaucoup plus grandes que les calories qu'on pouvait avoir en mangeant le riz. Fait que vous comprenez l'idée? Quand tu dépenses plus de calories que tu n'en manges, tu t'affaiblis tranquillement, tu t'affaiblis, puis à un moment donné, en fait, c'est la mort certaine qui est en avant de toi. Puis c'est ça qui était pour tous les prisonniers. C'était comme une sentence de mort pour tous les prisonniers. Vraiment un homme cruel. Puis pourtant, mais la famille, elle a survécu quand même. Dieu, dans sa providence, les a sauvés. En février 45, ils ont été libérés. Puis le commandant s'est enfui. Puis plusieurs années plus tard, les missionnaires ont entendu, ils ont découvert en fait que le commandant Konishi, il a été attrapé. Puis on l'a jugé pour crime de guerre. Puis il a été exécuté, on l'a pendu. Mais avant son exécution, ce qu'il a dit, en fait, c'est qu'il a témoigné de sa conversion au christianisme, ce monsieur-là, en disant qu'il avait été profondément touché par le témoignage des missionnaires chrétiens qui avaient persécuté, qui avaient martyrisé. Alors, afin qu'ils se souviennent de vos bonnes œuvres au jour où Dieu les visitera, bien, c'est exactement ça qui s'est passé avec ce monsieur japonais-là. Il s'est rappelé puis il s'est converti quand Dieu est venu le visiter. Deuxième point, on doit se soumettre aux autorités. Le premier point, c'est qu'on doit avoir une bonne conduite envers les païens. On doit se soumettre maintenant aux autorités. Premièrement, au roi, puis au gouverneur. César était l'empereur. Néron, en fait, l'empereur Néron, c'était un tyran, c'était un fou. C'était un homme qui était dérangé. Les gens de l'époque adoraient l'empereur comme un dieu. Et même si les Juifs, en général, croyaient que le Messie allait venir, tous ceux qui ont rejeté Christ, mais ils attendaient encore le Messie, parce qu'ils l'attendent encore aujourd'hui, bien, même les Juifs qui attendaient le Messie pour les libérer, plusieurs d'entre eux adoraient et offraient des sacrifices et des prières à l'empereur. Les chrétiens ne voulaient rien savoir. Les chrétiens refusaient d'adorer l'empereur, mais ils devaient quand même l'honorer. Différence entre l'honorer et l'adorer. On ne l'adore pas, mais il faut l'honorer. Qui d'entre nous serait prêt à honorer notre gouvernement s'il se prenait pour Dieu? Combien de chrétiens commenceraient à parler contre puis à dire toutes sortes d'affaires puis n'honoreraient pas le gouvernement parce qu'on a vu combien de chrétiens l'ont envoyé promener puis avaient même le goût qu'il meure puis quand il prenait des mauvaises décisions durant le temps de la COVID. Vous en rappelez comment on a eu des chrétiens qui étaient contre le gouvernement, comment ils l'haïssaient? Pourtant, ils ne se prenaient pas pour Dieu, là. Qui ont peut-être fait des erreurs, ils ont peut-être fait des choses qu'on n'était pas d'accord, mais honorer le roi, c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens ont passé à côté durant le temps de la COVID en parlant contre les autorités constamment. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on doit honorer parce que ce fou-là de Néron, il était le pire qu'on ne voudrait pas honorer. Pourtant, il nous dit « honorer le roi ». La soumission, c'est une leçon vraiment importante à apprendre dans la vie du croyant. Puis des fois, c'est une soumission qui s'apprend difficilement, puis il y en a qui l'apprend sur le tard. Je vois des chrétiens d'un certain âge, dans le sens, pas dans le sens de vieux en âge, mais vieux dans le Seigneur, ça fait 20 ans qu'ils sont croyants, 30 ans, qui n'ont pas encore appris à cette soumission-là d'honorer nos gouvernements, d'honorer le roi, d'honorer nos autorités, puis de respecter, de se soumettre aux autorités. Certains vont accepter de se soumettre dans leur conduite. Ben, regarde, je fais bien ce qu'ils demandent, mais pas dans leur attitude. Ça, je l'ai souvent vu, puis j'avais même reproché à un jeune frère, je dis, arrête de mettre ça sur Facebook. Arrête de traiter Justin, puis de traiter nos gouvernements de toutes sortes de faire, puis de dire comment ils sont. Arrête! Tu n'es pas en train de les honorer comme Dieu nous demande de faire, même si tu n'es pas d'accord. Donc, ce n'est pas juste en conduite, c'est aussi dans l'attitude. L'histoire du petit garçon qui est dans le char, puis son père, il dit « assis-toi », puis il ne veut pas, puis il est détaché, « assis-toi, attache-toi », puis à un moment donné, son père se fâche, puis là, le petit garçon, il s'assoit. Puis il dit à son père, je suis peut-être assis, mais dans mon cœur, je suis encore debout. Bien, ça, c'est d'obéir en action, mais d'avoir pas l'attitude d'obéissance. Et je ne crois pas qu'on peut séparer la conduite et l'attitude dans la soumission. Alors, toutes ces structures hiérarchiques-là, d'autorité, viennent de Dieu. Puis ça, il faut s'en rappeler. Hitler venait de Dieu dans son grand plan souverain. Honorer le roi, oui, c'est Hitler. Honore le roi. On ne peut pas dire d'être d'accord et d'être content de ce qu'il fait, mais honorer le roi, d'avoir un respect envers les autorités. C'est Dieu qui les a mis. Jésus lui-même dit de rendre à César ce qui est à César. Jésus s'est soumis à l'autorité de Pilate. Mais en disant à Pilate, toute l'autorité que tu as, t'a été donnée par Dieu. Ensuite, il dit, serviteurs, soyez soumis à vos maîtres. Et là, on tombe dans une autre catégorie, serviteurs, esclaves, soyez soumis à vos maîtres. Là, on tombe dans une autre catégorie, dans le sens qu'on ne connaît pas ça, l'esclavage, ici. Ce n'est pas dans notre culture, même dans notre pensée, on voit des films de la guerre des sécessions, on se souvient des images, des choses, mais c'est loin de notre idée, de notre pensée. Mais serviteurs, soyez soumis à vos maîtres. En fait, le mot pour serviteur que Pierre utilise, ce n'est pas le terme habituel, parce qu'on connaît le mot doulos, hein, serviteur, esclave de Christ, mais c'est vraiment un terme ici qui se rapporte à un domestique dans la maison, quelqu'un qui est dans la maison puis qui aide avec les tâches ménagères, mais c'est quand même un esclave. Et je vais vous faire une petite parenthèse sur l'esclavage, juste pour se mettre un peu dans le contexte, parce que là, on se dit « serviteur, soyez soumis ». C'est quoi l'esclavage? On considérait une société esclavagiste quand il y avait 30 % de la population d'esclaves. C'est quand même le tiers. Du temps de César Auguste et du temps de Jésus, l'Italie était considérée une société esclavagiste. Il y avait 2 à 3 millions d'esclaves sur 7 à 8 millions d'habitants. Donc, on a notre 30 % et ailleurs dans l'Empire, on dit qu'il y a 10 % de la population qui était des esclaves. Et il y a plusieurs qui en avaient un, des Romains, il y avait un esclave, il y en avait qui en avaient deux, puis il y en a qui en avaient encore plus. Ceux qui étaient riches pouvaient avoir 3, 4, 5, 6 esclaves, une dizaine. Je ne sais pas jusqu'où ça allait, mais on pouvait avoir plusieurs esclaves. La plupart des esclaves, c'était des prisonniers de guerre. Puis quand il y avait des enfants, ben ce n'était pas des prisonniers de guerre, mais c'était, moi, mon papa, il est prisonnier de guerre, puis moi, je suis maintenant esclave. Parce que quand on avait des enfants, les enfants étaient esclaves aussi du propriétaire qui était là. Il y en a qui se vendaient et il y en a qui vendaient leurs enfants. Ils se vendent eux-mêmes ou je vends mes enfants parce que quoi, j'ai des dettes, je vais payer mes dettes. La vie d'un esclave, tu sais, ça a l'air très, très négatif. Puis je ne suis pas en train de dire que c'est beau et c'est le fun, mais ça a l'air très, très négatif. Mais quand tu avais un bon maître, bien, c'était une vie qui était plus stable, qui était moins exigeante que la vie d'une personne pauvre et libre. Fait que si tu voulais choisir entre je veux-tu être pauvre et libre ou esclave d'un bon maître? Bien, tu voulais être esclave d'un bon maître parce que c'était plus payant pour toi, parce que tu pouvais manger tout le temps, tu avais un toit toujours sur toi, à moins d'avoir un mauvais maître qui, là, bien, ça devient peut-être, tu préfères être pauvre et libre finalement. Mais il y avait quand même plusieurs qui étaient des bons maîtres. Et souvent, pour différentes raisons, les Romains, ils finissaient par libérer leurs esclaves. Puis ce qui est intéressant, c'est que la plupart des esclaves libérés, bien, la plupart, en général, on recevait quand on était libéré notre citoyenneté romaine. Alors, l'idée de dire, hey, moi, je m'en vais esclave, c'est pas totalement bête. Parce que, tu sais, je m'en vais comme esclave, je peux espérer améliorer mon statut social. Parce qu'un jour, quand je vais être libéré puis je reçois le statut, la citoyenneté romain, bien, j'améliore mon sort. Et la plupart des esclaves acceptaient le statut, puis ils ne remettaient pas en question cette réalité-là. Puis on dit, pourquoi on libère un esclave? Bien, tu sais, on s'attache. Imaginez, moi, mon cousin, c'est pas mon cousin, c'est un esclave chez nous, puis il vient chez nous, puis écoute, tu vas tout faire mes tâches, mais je te nourris, tu es logé, puis des fois, quand on sort, tu accompagneras la famille, tu pourras t'occuper des animaux, puis regarde, tu ne vas rien manquer. Puis là, c'est notre esclave. À un moment donné, on peut développer l'amitié. Puis à un moment donné, après 10 ans, bien, écoute, Maxime, veux-tu ta liberté? Je t'adonne. Fait que c'est sûr que ça arrivait comme ça. Pour plusieurs raisons, ça pouvait arriver, mais les gens pouvaient commencer à les aimer, ces gens-là, puis développer des relations. Alors, je te donne ta liberté. Puis peut-être que lui, de son côté, pourrait dire, écoute, je suis tellement bien, je veux continuer à te servir. Je vais rester avec toi. Parce qu'il y avait des bons maîtres. faut pas oublier ça. Donc, oui, ils voulaient être libres, mais les esclaves ne voyaient rien de mal à être des esclaves. Puis même, vous allez trouver ça drôle, il y a même des esclaves qui pouvaient s'acheter eux-mêmes des esclaves pour eux. Fait qu'ils ne trouvaient pas ça totalement fou. Ils comprenaient le concept et ils l'acceptaient. Et Pierre nous parle d'un esclave qui est un domestique de maison. Mais il faut comprendre que dans la ville de Rome, écoutez, il y avait toutes sortes de métiers qui étaient pratiqués. Ce n'était pas juste des domestiques, des gens qui travaillaient à la cuisine dans le jardin. Il y avait plusieurs qui étaient des artisans, des potiers, des sculpteurs, des peintres. Il y avait des professeurs, des cuisiniers, des directeurs, même des gérants qui étaient des esclaves. C'est un gérant de magasin. Puis même, on dit que plusieurs des docteurs les plus respectés de Rome étaient des esclaves d'origine grecque. Par contre, la loi les considérait comme une propriété. Alors ça, c'est le monde des esclaves. Puis quand tu es une propriété, si ton maître il veut des faveurs sexuelles, bien ça aussi, ça fait partie, bien j'appartiens au maître. Fait que il y a toutes sortes de maîtres, il y a toutes sortes de situations, mais Pierre dit, serviteurs, soyez soumis à vos maîtres. C'est quand même spécial que Dieu demande ça à travers sa parole. Il devait être soumis, même si le maître avait un caractère difficile. Et Dieu est honoré de ça quand il voit la soumission des esclaves, parce que c'est une conduite qui démontre la grâce de Dieu. Quand tu te soumets à une personne qui ne mérite pas que je l'écoute et que je sois gentil, ça démontre à quelque part la grâce de Dieu. C'est une conduite qui distingue les croyants des autres. Aimez vos ennemis. Il y en a peut-être qui pensaient, puis qui, avec raison, que leur maître était leur ennemi. Aimez vos ennemis. Soyez soumis à vos maîtres. Et la grande question, pourquoi Pierre dénonce pas l'esclavage? Il est fait poser souvent, ça. Mais non, Dieu, es-tu pour l'esclavage? Il faut comprendre que le principe dans les Écritures, le principe que Pierre va enseigner ici, ce n'est pas de se battre pour nos droits, mais c'est de se soumettre respectueusement aux autorités qui sont établies par Dieu. Puis il faut se rappeler que Jésus n'a pas donné un mandat politique à Pierre. Il a donné à Pierre le mandat de faire des disciples des nations. Ça n'empêche pas de s'impliquer socialement, mais ce n'est pas notre priorité. Puis ça, je le dis, puis j'ai même fâché une personne qui nous visitait dans notre église quand j'avais dit ça. On peut s'impliquer socialement, mais ce n'est pas ça notre priorité. Jésus n'est pas venu sur la terre pour faire une réforme sociale et politique. Il est venu pour régler le problème du péché. Il est venu pour régler le problème de notre rébellion contre Dieu. Dans un contexte qui avait ça, il n'est pas venu pour régler tout le contexte et toute la société. Il est venu pour apporter le problème du péché. Donc, on doit avoir une bonne conduite. On doit se soumettre aux autorités. Troisièmement, on doit aimer nos frères et sœurs. Jean 13, hein, vous connaissez bien. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et moi, encore là, je me suis demandé. Moi, je vois plein de monde s'aimer les uns les autres. Puis ils ne sont pas des disciples de Christ. Vous avez déjà vu un groupe de motards? Ils s'aiment. Puis ils se protègent l'un l'autre. Ou la mafia, tu sais, la famille, on ne touche pas à la famille. Tu sais, ils s'aiment dans leur groupe. Un groupe, le cercle des fermières. Je suis sûr qu'ils sont full fin ensemble et qu'ils s'aiment. De quel genre d'amour est-ce que Jésus parle? Aimez-vous les uns les autres. Au point que les mondes ils nous reconnaissent comme des enfants de Dieu, quel genre d'amour, Seigneur, est-ce qu'il faut avoir? Parce qu'il y a plein de monde qui s'aime partout. On est appelé à s'aimer d'une manière qui jette sur le derrière le monde qui nous regarde. C'est quand même quelque chose. Qu'est-ce que les gens devraient voir de si spécial dans notre amour? Bien, je crois que ce qui fait qu'on peut reconnaître un disciple à son amour, c'est quand on voit de l'amour où normalement on ne devrait pas en voir. Quand on voit le pardon où normalement on devrait voir la vengeance. Ça, ça frappe. Tu dis, mais normalement, là, moi, je n'aurais jamais pardonné. On voit ça des fois. Hein? Pardonneriez-vous à un meurtrier d'avoir tué votre enfant? Jamais je pardonne. À des endroits où on ne devrait pas voir d'amour, où on ne devrait pas voir d'entraide, où on ne devrait pas voir de pardon, et qu'on en voit, on dit, ben voyons donc, ça ne se peut pas, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est ça qui devrait être dans notre assemblée, dans nos églises. Un amour qui ne devrait pas être là normalement. Quand on a des querelles, puis que ça finit par faire ça, ben on a échoué à semer les uns et les autres comme Christ nous a aimés. Puis personne ne va reconnaître qu'on est les enfants de Dieu, parce qu'on a fait comme deux mondes, on a fait ça. On est appelé à rester comme ça, puis à régler nos différends, puis à s'aimer quand même. Ça ne veut pas dire devenir les meilleurs amis de tout le monde. On va avoir des choses, peut-être que c'est plus difficile, mais on va rester unis, on va rester ensemble. C'est ça qui va faire que les gens vont voir, waouh, ils sont différents, eux autres, j'en reviens pas, je comprends pas. Ben viens, je vais te l'expliquer. On va ouvrir les Écritures, puis on va lire des Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. C'est lui qui m'a transformé, c'est lui qui m'a régénéré. Vous êtes une nouvelle créature, de Corinthiens 5, 17. Puis là, ils vont commencer à comprendre, oh, finalement, c'est pas parce que tu es meilleur que moi, non. C'est parce que Christ a fait une œuvre dans ta vie. C'est ça que les gens doivent voir autour. Si notre amour ne dépasse pas celle du monde, alors on n'aime pas comme Dieu aime. Et la quatrième, c'est on doit craindre Dieu. Donc, les gens doivent avoir une bonne conduite. J'aurais dû réécrire. J'ai de la misère à me souvenir de mes points. On doit se soumettre aux autorités. On doit aimer les frères et sœurs. On doit craindre Dieu. Vous avez souvent entendu la crainte révérencieuse de Dieu. Hein? Il faut avoir une crainte respectueuse, une crainte révérentielle. Des gros mots, mais tu sais, gros mots qui disent qu'il faut vraiment avoir une crainte profonde de Dieu, puis un respect profond parce qu'il est Dieu. Mais le danger, c'est de transformer cette révérence, cette crainte révérentielle-là en une familiarité révérentielle. Je ne sais pas si vous voyez où je veux aller. C'est qu'à un moment donné, Dieu, c'est je suis en relation avec lui, puis moi, j'y jase, puis ça devient mon grand chum. C'est mon grand chum, Jésus, je parle tous les jours. Puis je m'en souviens, je parlais avec un chrétien, là, je pense que c'est l'année passée, il dit, puis là, je parlais avec le gars d'en haut, là, puis oh boy, il appelait Dieu le gars d'en haut. Bon, je ne pense pas qu'on est nécessairement rendu là, mais l'idée de transformer une crainte révérentielle en une familiarité. Puis je suis d'accord qu'on a une proximité avec le Seigneur puis qu'on doit être proche de Dieu, mais il ne faut jamais oublier qu'il demeure Dieu. Ce n'est pas notre chum, c'est notre grand Seigneur et Sauveur. Il ne faut jamais oublier ce point-là. Et le danger dans une relation d'amitié, bien, c'est justement de passer de la crainte révérentielle à une familiarité. Parce que, tu sais, avec mes amis, je vais me permettre des choses. Je vais me permettre de parler à mes amis d'une certaine manière, mais je ne devrais pas me permettre de parler à Dieu comme ça. Il y a une chanson, ça m'a un peu frappé, une chanson d'un groupe chrétien, et il blasphème dans sa chanson, en anglais. Puis je comprends pas. Puis je suis pas en train de dire qu'il est pas correct, puis il faut pas écouter sa musique. Mais je veux juste vous expliquer son raisonnement que j'ai de la misère à comprendre puis à accepter. Mais son raisonnement, il dit, bien, écoute, il dit, moi, je suis authentique. Puis quand ça va mal, c'est comme ça que je m'exprime à Dieu. Je dis ce qu'il y a dans mon cœur. Puis c'est correct. Mais d'aller jusqu'au blasphème, pas envers lui, envers la difficulté de la vie. C'est dur, hein? Mais il a écrit ça dans sa chanson parce qu'il dit, c'est comme ça que je me sens. La vie est dure, en s'il vous plaît, puis c'est comme ça que je veux le dire à Dieu. Dieu est Dieu, puis c'est lui qui gérera tout ça, mais j'ai l'impression qu'il a perdu cette crainte révérentielle dans une certaine mesure. Des gens peuvent être d'accord avec lui puis pas d'accord avec ce que je dis, mais je pense qu'il faut toujours garder à l'esprit que c'est Dieu. Puis la crainte de Dieu, il faut garder cette crainte-là. On ne peut pas parler à Dieu de n'importe quelle manière. Oui, on peut lui dire notre cœur, lui dire comment on haït telle personne, parce que ça nous arrive. Puis vous vous souvenez, David, il dit, je veux y casser les dents. Là, à un moment donné, il dit de casser les dents à ses ennemis. Tu sais, David, il va loin avec ses sentiments, ses émotions, mais il y a une ligne qu'il faut faire attention à ne pas franchir, je crois, parce que c'est Dieu, le grand Dieu tout-puissant, au-dessus de tout. Alors, tout en étant proche de Dieu, Dieu est infiniment au-dessus de nous. Alors, on doit honorer le monde, aimer les chrétiens, mais craindre Dieu. Alors, voici comment on doit se conduire en tant que voyageur sur la terre. Avoir une bonne conduite devant les païens, dans nos actions, nos réactions. Se soumettre aux autorités, en conduite, mais aussi dans notre attitude. Aimer nos frères et sœurs d'un amour qui va jeter le monde par terre. Craindre Dieu d'une crainte révérentielle et pas tomber dans une familiarité qui nous fait dire peut-être des choses qu'on ne devrait pas dire à ce grand Dieu. Et si durant notre pèlerinage, on nous traite injustement, mais considérons-le comme une grâce qui vient de Dieu. Terminé par la prière. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci pour toutes les vérités qu'on peut lire, qu'on peut partager ensemble. Et puisses-tu bénir, Père, chacun de nous, nous garder fidèles à toi, nous garder dans la sainteté, qu'on n'oublie jamais à qui on parle, parce que tu es notre grand Dieu créateur, trois fois saint. Et on est, oui, racheté, mais encore prisonnier de ce corps, et on pêche encore, on aime encore notre péché. Garde-nous, Seigneur, loin du péché, justement. Garde-nous près de toi. Et c'est toi qui peux nous garder parce que c'est toi qui es fidèle, c'est toi qui nous tiens dans ta main, dans la main de Dieu lui-même. Bénis l'Assemblée ici. Puisses-tu faire rayonner ton témoignage à Sainte-Marie, aux alentours, et que d'autres puissent venir en voyant l'amour qu'il y a ici, d'autres puissent dire, hey, wow, je veux savoir pourquoi. Je veux comprendre et que l'Évangile puisse être présenté pour faire d'autres personnes de tes enfants, Seigneur. Et merci encore, puis bénis chacun de nous, protège-nous sur le retour. Amen.
Amen. Merci, Martin.